Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade, Léa Sabourin et Guillaume Ménard. À la réalisation, Émilie Valla, prise de son, Souad Boukorsa.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nous entamons aujourd'hui une nouvelle série consacrée aux économies de l'Antiquité. Un voyage dans le temps qui nous emmènera demain au cœur de l'Égypte des pharaons, souvent considéré comme le premier état-providence. Mercredi, nous examinerons la place des échanges dans la cité grecque, avant de nous demander jeudi si la chute de l'Empire romain avait des origines économiques. Mais d'abord, prenons la direction de la Mésopotamie, la terre entre les fleuves. La ville de Babylone a connu son apogée sous le règne d'Amourabi au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Un souverain à qui l'on doit le premier code juridique régissant entre autres le commerce et le droit de propriété. Il est 14h passé de 1 minute sur France Culture, l'heure d'entendre l'écho des civilisations antiques. Nous allons examiner l'économie babylonienne en compagnie de Dominique Charpin, professeur au Collège de France, auteur de « Tuer de mon sang, les alliances dans le Proche-Orient ancien » paru cette année aux Belles Lettres, en compagnie également de Véronique Grandpierre, historienne, chercheuse au laboratoire Identité, Culture, Territoire de l'Université Paris Diderot et autrice d'une histoire de la Mésopotamie parue chez Gallimard. À 14h50, Xavier Martinez sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho.
Lorsque le sublime dieu Anu, le roi des Anunnanouk, et le dieu Enlil, le seigneur du ciel et de la terre qui fixe les destins du pays, eurent attribué au dieu Marduk, la toute-puissance sur la totalité des gens. Lorsqu'ils eurent prononcé le nom sublime de Babylone et l'eurent rendu prépondérante aux quatre coins du monde, lorsqu'ils eurent établi à Babylone pour Marduk une royauté perpétuelle dont les fondations sont aussi solides que celles du ciel et de la terre, alors les dieux Anu et Enlil, pour améliorer le bien-être des gens, prononcèrent mon nom à moi, Amourabi, prince pieux, qui révère les dieux afin de faire surgir la justice dans le pays, d'éliminer le mauvais et le pervers, d'empêcher le puissant d'opprimer le faible, de paraître comme le dieu Shamash sur tous les hommes et d'illuminer le pays. Je suis Amourabi, le pasteur nommé par le dieu Enlil. Je suis celui qui a accumulé abondance et profusion, qui a parachevé toutes les choses pour la ville de Nippur Duranki, le pourvoyeur zélé du temple de Lekour. Tempête aux quatre coins du monde, je suis celui qui magnifie le nom de Babylone, celui qui contente le cœur du dieu Marduk, son seigneur, qui se tient tous les jours dans le temple de l'Essagil. Je suis le roi fort, le soleil de Babylone, celui qui fait paraître la lumière sur le pays de Sumer et d'Akkad, le roi qui se fait obéir aux quatre coins du monde, je suis le protégé de la déesse Ishtar. Lorsque le dieu Marduk m'eut chargé de diriger les gens et d'enseigner au pays la bonne voie, j'ai répandu dans l'esprit public le droit et la justice, j'ai assuré le bien-être des gens.
Véronique Grandpierre et Dominique Charpin, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez sans doute reconnu cet extrait du très beau prologue du Code d'Amourabi. Pour commencer, que vous inspirent ces paroles du roi de Babylone, Dominique Charpin ?
Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont le discours juridique et économique complètement intégré à une représentation religieuse du monde. Et donc, on voit comment... Par une série de cercles concentriques, les plus grands dieux délèguent le pouvoir au dieu Marduk, qui lui-même s'intéresse à la ville de Babylone, qui est sa ville principale. Et donc, dans la lignée des rois de Babylone, c'est à Amourabi que revient le soin de exercer la justice.
C'est à la fois une vision du monde et une vision de la société que l'on retrouve dans ce code d'Amourabi.
Une vision du monde, une vision de la société, une vision également du pouvoir royal. L'une des qualités royales est de rendre la justice, et c'est bien d'ailleurs l'objet du prologue qui est confié ainsi à Amourabi.
Alors il faut dire que le règne d'Amourabi s'étend de 1792 à 1750 avant Jésus-Christ. Amourabi, pour le situer, c'est un souverain qui est considéré comme le fondateur du premier empire de Babylone, Véronique Grandpierre.
Fondateur, non, pas expressément, mais c'est un des souverains que l'on connaît le plus. Pas forcément d'ailleurs par la ville de Babylone, parce que quelque chose qui est quand même très particulier, c'est que la ville d'Amourabi, on ne la connaît pas. Et on ne pourra jamais la connaître.
Pourquoi cela ?
Pour une bonne raison, c'est qu'elle est sous la nappe phréatique. Et donc, tout ce que l'on connaît de Babylone, on le connaît par des villes qui sont extérieures à Babylone, mais qui font partie de l'Empire de Babylone. Et donc on a une vue en négatif au sens photographique du terme de Babylone, mais on a tellement de tablettes qu'on connaît énormément de choses. Mmh. Plus peut-être que si on avait la ville.
C'est véritablement Hammurabi qui fait de Babylone cette capitale, ce haut lieu de création littéraire et en même temps ce centre philosophique et théologique, Dominique Charpin.
Oui, c'est vraiment sous son règne que la ville a cessé d'être une capitale parmi d'autres et a réussi à s'imposer à l'ensemble du Proche-Orient. Il y aura une deuxième phase dans l'histoire de la Mésopotamie où ça se reproduira au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et entre les deux, la ville aura connu des hauts et des bas. Donc vraiment, en effet, la figure d'Hammurabi non seulement est importante pour nous, parce que nous la connaissons bien, mais elle était importante aussi dans l'Antiquité.
Hammurabi arrive au pouvoir alors que la civilisation mésopotamienne s'est déjà développée depuis plusieurs millénaires, Véronique Grandpierre, et notamment grâce au commerce.
Alors, notamment grâce au commerce, mais pas seulement. Effectivement, l'occupation du sol est importante et elle est longue. On a retrouvé des silex à Babylone, dans la région. Donc, dès l'époque néolithique et même paléolithique, elle est occupée. Il y a eu d'autres civilisations qui se sont succédées, mais effectivement, l'époque d'Hammurabi est particulièrement connue. Et on est peut-être aussi, nous, particulièrement sensibles au code d'Hammurabi, ne serait-ce que parce qu'il est au Louvre.
Alors ce code, effectivement, qui est au Louvre, est inscrit sur une haute stèle de basalte noir. Mais ce qu'il faut peut-être expliquer, Véronique Grandpierre, c'est que ce n'est pas le premier code mésopotamien. Il y en a eu d'autres avant.
Effectivement, il y a eu d'autres codes de loi. Après, on verra si on appelle ça des codes. Mais il y a eu d'autres codes de loi, notamment le code d'Ur-Nammu. Le code
à la fin du troisième millénaire,
à la fin du troisième millénaire, qui était le code de loi du troisième empire d'Ur, l'empire d'Ur III, néo-sumérien.
Et c'est Ur, le roi Ur-Nammu, a fondé la dynastie qui a fait de la ville d'Ur la capitale d'un royaume très prospère.
Exactement. Et qui, vous avez deux rois qui sont très importants. Vous avez Ur-Nammu et vous avez Shulgi, qui ont régné tous les deux très longtemps, l'un étant le fils de l'autre, et donc qui ont pu établir un certain nombre de choses dans la continuité. Quand on a pour soi 48 années de règne, ça aide quand même beaucoup. Ensuite, il y a eu d'autres lois, comme le code de Lipit-Ishtar, c'est aussi un nom de roi, et puis les lois d'Eshnouna, qui sont cette fois en babylonien, et là c'est le nom d'une ville.
Plusieurs textes de loi qui ont existé avant le code d'Hammurabi, mais peut-être que ce code, celui d'Hammurabi, c'est le plus complet, Dominique Charpin, dont on dispose encore aujourd'hui.
Tout à fait. D'une part, en raison de la monumentalité de cette stèle que vous évoquiez, 2,25 m de haut, quelque chose comme plus de 280 paragraphes différents. Et ce nombre est dû au fait que le code d'Hammurabi a mélangé, d'une part, je dirais, des variations sur des thèmes traditionnels qui avaient déjà été évoqués par les codes plus anciens, et puis en même temps, l'écho de la jurisprudence de l'époque. Et il y a des paragraphes dans ce code d'Hammurabi pour lesquels on a des échos très très précis dans la correspondance de ce temps. Et la question qu'on se pose, bien sûr, c'est de savoir, est-ce que la lettre qui évoque ce cas doit être considérée comme l'application du code d'Hammurabi, ou bien est-ce que ça n'est pas, au contraire, le cas qui a été soumis au roi, que le roi a tranché, et du coup, on l'a formalisé sous la forme d'une loi nouvelle dans le code.
La question, c'est effectivement cette valeur prescriptrice de ce code, qui est une œuvre d'art, une œuvre littéraire, Véronique Grandpierre, on l'a entendu avec cet extrait du prologue du code.
Alors, c'est une œuvre littéraire, hein, quand on regarde le prologue. Après, c'est peut-être un peu moins littéraire aussi. Attention, c'est quand même un recueil. C'est quand même des lois, enfin des prescriptions. Donc, c'est un petit peu moins littéraire, mais c'est surtout, il est surtout connu parce qu'il a été recopié de génération en génération par les scribes. C'est ainsi que l'on apprenait à écrire. Je dois dire, c'est aussi ainsi que moi, j'ai appris le babylonien. Ce qu'on apprend le babylonien à partir du code d'Hammurabi. C'est aussi une œuvre effectivement artistique, mais pas seulement littéraire, parce que le haut de la stèle nous présente un thème iconographique qui est très, très important, puisque vous avez le dieu Shamash qui est assis sur son trône, qui est à droite. Le dieu Shamash, c'est le dieu du soleil, mais c'est aussi le dieu de la justice. Et devant lui se tient le roi Hammurabi.
Alors vous l'avez dit, Dominique Charpin, ce code contient 282 articles et il y a notamment des règles concernant les prix, les prêts, les contrats. Est-ce que vous avez des exemples de règles qui sont ainsi édictées ?
On a par exemple la fixation des taux d'intérêt et on s'aperçoit que selon que le prêt est formulé en grain ou en argent, le taux d'intérêt ne sera pas le même parce qu'il y a des variations dans le prix du grain avant et après la récolte. On emprunte avant la récolte, on rembourse après. Et donc, le code tient compte de cela, alors que l'argent a une valeur plus uniforme et plus indépendante des moments de l'année agricole.
Il faut bien voir que du point de vue juridique, c'est un progrès absolument extraordinaire parce que c'est la première fois qu'on établit une proportion entre le châtiment et l'acte commis. C'est-à-dire que il faut le comprendre comme si on vous a crevé un œil, vous n'avez pas le droit d'exiger du coupable autre chose que ce que vous avez subi vous-même. Et donc, en particulier, on abandonne à ce moment-là une pratique de justice qui était celle de la vengeance, de la vendetta, où on pouvait se venger sur une personne jusqu'à la mort et éventuellement même sur toute sa famille. Donc, le rôle du roi, c'est de tracer des cadres au-delà desquels on ne peut pas aller.
Le professeur d'histoire Francis Johannes, le code d'Hammurabi instaure en quelque sorte la loi du talion, Véronique Grandpierre ?
Oui, on peut le dire comme ça, parce que talis talis, ça veut dire la même chose en fait. Crever un œil, je vais vous crever votre œil.
Alors qu'avant, la violence pouvait être beaucoup plus importante, on pouvait se venger en tuant toute la famille de la personne qui vous avait commis un préjudice.
Éventuellement, mais là, ça dépend aussi du statut de la personne lésée et de la personne qui lèse, c'est-à-dire de l'agresseur et de l'agressé. Ce n'est pas la même chose si un homme libre agresse un homme libre ou si un homme libre agresse un esclave ou si un esclave agresse un homme libre.
Mais ce qu'on constate, c'est que c'est tout de même le début d'un encadrement de l'exercice de la justice, ce code d'Hammurabi, Dominique Charpin.
Oui, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, si je puis dire, parce que on voit comment, déjà, dans les sociétés tribales de Syrie de la même époque, les souverains sont intervenus pour limiter le droit de la vengeance, qui était un droit tribal traditionnel. Et, par exemple, les sources du palais royal de Marie nous montrent que les gens n'ont plus le droit de se faire justice eux-mêmes en mettant à mort quelqu'un. Quelqu'un qui désire que on mette à mort quelqu'un qui lui a fait une offense grave, eh bien, il doit présenter le cas au roi et c'est le souverain seulement qui pourra décider du châtiment définitif du coupable.
Et alors, ce code d'Hammurabi, vous le disiez, Véronique Grandpierre, on peut se poser la question s'il s'agit vraiment d'un code, s'il s'agit vraiment de loi, puisqu'en réalité, il est plus divers que cela, en réalité, Véronique Grandpierre.
C'est surtout que ce ne sont pas des lois édictées comme des lois. Ce sont des lois qui, comme l'a dit Dominique Charpin, c'est plutôt la généralisation d'une mesure qui a été prise ponctuellement. Et ensuite, par analogie, on va appliquer, mutatis mutandis, la même chose.
D'ailleurs, le terme code ou loi n'existe pas, je crois, en langue sumérienne ou akkadienne. Dominique Charpin.
Non, on n'a pas de mots qui permettraient de décrire le code. Lorsque Hammurabi, dans l'épilogue, fait allusion à ce texte, il dit mes paroles de justice. Voilà. Donc, et le mot parole peut renvoyer justement à des verdicts. Je crois aussi que par rapport à notre notion de code, il faut insister sur la présentation, nous disons dans notre jargon, casuistique des lois, c'est-à-dire que on n'édicte pas une loi qui a un caractère général, mais on regarde toujours un cas. Et donc les formulations sont du type, si telle chose se produit, alors il faudra donner tel châtiment ou prendre telle mesure, etc.
Et alors, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il manque des pans entiers de la vie sociale et du droit dans ce code d'Hammurabi, comme la fiscalité, l'administration, les crimes, l'élevage aussi, je crois, est assez peu évoqué. Donc on voit que ce n'est pas un code qui est censé régir l'intégralité de la vie économique et sociale.
Tout à fait. Et se pose aussi le problème du rapport entre ce code et puis les droits coutumiers locaux. Et on voit très bien, à travers les archives par exemple, que dans la division des héritages, les différentes villes du royaume ne procèdent pas de la même manière, et le code n'intervient, pour en ce qui concerne les héritages, que pour des cas très précis, par exemple des femmes qui ont été faites religieuses par leur père, donc il les a fait rentrer dans une sorte de couvent, pourrait-on dire, et là il y a le problème de savoir à quelle part d'héritage elles ont droit ou pas, mais par ailleurs on n'a pas de règles générales, donc on voit bien que le roi intervient en fait souvent sur des questions qui lui ont été posées parce que on ne savait pas trop quoi faire et on intervient à ce moment-là auprès du souverain.
Et une copie du code est présente dans la plupart des cités mésopotamiennes ?
Alors, la stèle du Louvre nous dit que le code a été installé dans le temple du dieu Marduk dans la capitale Babylone, mais en fait, l'exemplaire du Louvre, on l'a retrouvé en Iran, où il avait été apporté par un conquérant iranien du XIIe siècle avant notre ère et vraisemblablement pris dans la ville de Sippar. Donc, il semble bien en effet qu'il y avait plusieurs copies. On a aussi des transcriptions sur des tablettes de versions différentes du prologue où le nom de la ville de Babylone est remplacé, par exemple, par le nom de la ville de Nippur, qui est une ville très importante en Mésopotamie. Donc, il y avait des versions locales différentes.
Et donc, ce qu'on voit bien, c'est que ce code, c'est aussi une façon de montrer sa puissance pour le roi. Il fait la liste de ses conquêtes, et si jamais ce code a pu se retrouver, certains exemplaires se retrouver dans certaines villes, c'est une façon pour le roi presque de faire du soft power, Véronique Grandpierre, pour faire un anachronisme énorme.
C'est une façon, en tout cas, d'occuper l'espace, d'occuper le terrain, de montrer qu'il est présent. La fin du code dit d'ailleurs qu'on peut se rendre devant le code. Donc ça a une signification, cette présence du code. En revanche, je tiens à préciser qu'il a été retrouvé à Suse, mais comme l'a dit Dominique Charpin, il a été retrouvé à Suse parce qu'il a été emporté par un vainqueur, non pas pour l'appliquer sur place, mais parce que la pierre étant de la diorite, de la même façon que les statues des rois étrangers, on les prend avec soi quand on est le conquérant, c'est pour montrer au contraire sa valeur, le fait qu'on a étendu son territoire, mais ça ne veut surtout pas dire qu'il était appliqué à Suse au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Là, c'était parce que justement, la pierre en elle-même avait une telle valeur que le conquérant l'a prise avec lui.
Mais il y a d'autres cités mésopotamiennes où il y a pu y avoir des exemplaires avec une application de ce code.
Au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque d'Amourabi, il le met lui-même dans ses villes pour qu'il soit vu par les habitants de son royaume.
Et alors ce code nous intéresse d'autant plus que ce qu'il faut rappeler, c'est que l'écriture a été inventée en Mésopotamie.
Les hommes passés et morts depuis très longtemps nous ont laissé deux types de choses, si vous voulez, étudiables. D'abord, ce qu'ils ont fabriqué, les monuments, comme on les appelle, et qui, analysés, une statue, un mur, nous permettent de savoir leur technique. Enfin, ces objets ne parlent pas, mais on peut les faire parler. Ils sont assez peu loquaces, mais ils disent pas mal de choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle les documents. Parce que, à partir d'une certaine époque, et dans certains pays, et la Mésopotamie est le premier à avoir ce privilège, on a pu fixer la pensée qui est volatile, la parole qui est volatile, a pu être fixée grâce à ce truc merveilleux qu'est l'écriture. Or, l'écriture a été inventée en Mésopotamie.
L'historien et assyriologue Jean Bottero. Alors, quelles sont les traces qui laissent entendre que ce truc, l'écriture, a été inventée à Sumer, en Mésopotamie, au 4e millénaire avant Jésus-Christ, Dominique Charpin?
L'archéologie a retrouvé des tablettes de cette époque-là par centaines. Et ce qui est très intéressant, c'est que par la suite, on en a beaucoup et on peut donc voir l'évolution de cette écriture dans sa forme, dans ses fonctions également. Et ça nous amène donc à l'époque d'Amourabi, une période pour laquelle l'écriture est devenue tellement bien maîtrisée que pratiquement tout peut s'écrire, et c'est ça que je trouve tout à fait fascinant pour cette période-là. Nous sommes à une époque où l'argile, qui est le support sur lequel on écrit ces tablettes en écriture cunéiforme, n'a pas de concurrent. Au premier millénaire, vous avez d'autres écritures, vous avez d'autres supports, malheureusement périssables, qui font qu'on n'a qu'une partie de la documentation. Pour l'époque d'Amourabi, on a tout ce qui a été écrit.
Ce qui explique qu'on ait autant de sources qui soient restées.
Voilà. Rien que pour les quatre premiers siècles du deuxième millénaire, donc l'époque d'Amourabi au sens très large, on a à l'heure actuelle, en se limitant aux documents d'archives, donc je ne parle pas des inscriptions royales, des textes littéraires et scolaires, rien que pour les documents d'archives, on a à l'heure actuelle plus de 33 000 tablettes cunéiformes qui sont publiées. Et je ne parle pas des milliers d'inédits qui sont encore dans les tiroirs des musées et autres collections.
Et parmi les premiers usages de l'écriture cunéiforme, Véronique Grandpierre, on trouve déjà le commerce. C'est d'abord pour les échanges qu'on a besoin d'écrire sur ces tablettes en argile.
Alors on a besoin d'écrire pour tout. Mais effectivement, le commerce, pas seulement le commerce d'ailleurs, aussi tout ce qui est mathématiques, comptabilité. Et la particularité justement des tablettes par rapport à de la recherche en histoire de l'Orient ancien par rapport à tout ce qui est époque classique, c'est que nous avons énormément de comptes, de petites tablettes de comptes, de prêts, de contrats, de toutes ces petites choses de la vie du quotidien. Nous les avons, alors que sur les époques grecques et romaines, là, c'est plutôt des textes littéraires. Nous connaissons la vie du quotidien, jour au jour.
Alors justement, intéressons-nous à cette vie du quotidien, à cette vie économique et sociale. Et d'abord, peut-être un mot, Dominique Charpin, sur l'organisation de cette société sous le règne d'Amourabi. Quelles sont les différentes catégories sociales ?
Je dirais que dans la présentation qui nous est faite par Amourabi lui-même, on voit bien que ce sont des cercles concentriques par rapport à la personne du roi. Donc il y a ceux qui sont dans son entourage, les awilou, comme on dit en babylonien, littéralement les hommes, qui sont en fait une forme d'aristocratie. Il y a le commun du peuple, ce que dans le code d'Amourabi et dans les documents de l'époque, on appelle des mouchkenoum. Et puis, il y a la dernière catégorie qui sont ce que nous appelons les esclaves. Étant entendu que les choses sont en fait moins tranchées que, par exemple, en droit romain. Toutes ces notions sont en effet relatives. C'est-à-dire que, pour bien comprendre, je dirais que le roi, qui nous paraît être au sommet de la pyramide, si vous regardez le rapport avec le monde divin, le roi lui-même est un esclave par rapport aux divinités.
Donc le même mot. C'est le sens du mot wardoum.
Voilà, le mot wardoum va être utilisé pour décrire la relation du roi par rapport aux dieux, mais aussi pour décrire les relations des hauts fonctionnaires par rapport au roi. Son premier ministre lui écrira en disant qu'il est son serviteur. Aujourd'hui, c'est une chose qu'on aurait du mal à admettre. Déjà, comme le mot collaborateur n'a pas toujours plu. Mais alors, se décrire serviteur de celui qui exerce la fonction suprême, ce serait plus compliqué.
Donc, dans la société d'Amourabi, on est toujours le serviteur de quelqu'un.
Voilà, on a un système de hiérarchie relative, je dirais.
Et alors, concernant les esclaves, Véronique Grandpierre, quelle est leur place dans la vie économique? Et peut-être qu'il faut distinguer ceux qui sont nés à la maison, comme on les appelle, et ceux qui sont achetés. Il y a deux catégories d'esclaves.
Alors, il y a deux catégories d'esclaves. Ceux qui sont nés à la maison, comme le mot l'indique, ça veut dire qu'ils sont nés d'une mère esclave. Pourquoi ? Parce qu'on a le statut de la personne qui vous met au monde.
Donc, c'est une société héréditaire.
Une société qui est quand même assez héréditaire. Et après, vous avez ceux qui peuvent être achetés. Alors, comment on peut être acheté ? Soit à l'issue de guerre, soit tout simplement parce que sa famille étant endettée, le père de famille a vendu l'un de ses fils, de ses filles, ou même sa femme, pour éponger ses dettes. Vous me direz, c'est horrible de vendre comme ça dans notre société actuelle, quelle horreur, hein. Mais
c'était une pratique qui se faisait.
Alors c'était une pratique qui se faisait et qui s'explique. Je ne sais pas si elle se justifie, mais en tout cas elle s'explique. Lorsque vous êtes au moment de la soudure, qu'il y a la famine et que vous n'avez rien à manger, vous avez deux solutions. Soit vous ne mangez rien, et donc vos enfants meurent. Soit vous en vendez un, de manière
pour sauver l'autre.
À sauver quand même une partie de la famille.
Bon. Sachant qu'on pouvait éventuellement peut-être racheter ensuite la personne qu'on avait vendue.
Certains contrats le permettent, effectivement.
Et alors sur la place des esclaves dans la vie économique, par comparaison peut-être avec les cités grecques.
Alors En Mésopotamie, on a un esclavage qui est essentiellement un esclavage domestique, c'est-à-dire que les productions artisanales ou agricoles ne dépendent pas de grands troupeaux d'esclaves comme on peut le trouver dans l'Antiquité classique. L'esclave, c'est d'abord celui qui lavera vos pieds quand vous rentrez à la maison, hein, ça fait partie des tâches qui sont indiquées, et c'est pour ça que dans l'Évangile, le lavement des pieds est un acte aussi transgressif, hein, puisque c'est le maître de maison qui se met à laver les pieds des autres. C'est un écho des pratiques de cette époque-là. Et c'est celui, par exemple, aussi qui va moudre la farine, puisque dans les techniques de conservation de l'époque, la farine, c'est quelque chose qui ne se conserve pas longtemps. Donc, pour fabriquer son pain de tous les jours, il faut moudre la quantité de farine chaque jour. Et c'est un travail qui est très pénible, puisqu'on a des meules à ce moment-là qui impliquent qu'on se met à genoux et on pousse une sorte de cylindre sur une pierre, et donc voilà des tâches, aller puiser l'eau aussi, ça fait partie des tâches de ces esclaves domestiques qui sont destinées à soulager le travail des gens de la maison.
Un dernier mot peut-être sur cette société qui est une société héréditaire, vous le disiez Véronique Grandpierre, on le voit par exemple chez les marchands et chez les artisans, on transmet ses richesses et son statut social à ses descendants.
Alors on essaie effectivement de transmettre son statut social quand on en a un bon, mais je pense que ça c'est pas forcément
l'apanage de la Mésopotamie.
De la Mésopotamie. Autant que faire se peut, effectivement, on essaie de transmettre ses biens. Parfois, en revanche, eh bien, nous pouvons constater, en voyant justement l'évolution des patrimoines des uns et des autres, que d'autres accroissent leur patrimoine. Et quand l'un accroît son patrimoine, en général, c'est au détriment d'un autre. Donc on voit des fortunes qui se font, qui se défont.
Mais on constate aussi des pratiques d'apprentissage d'un métier, par exemple. On ne transmet pas uniquement son métier à son fils, par exemple.
Alors parfois, on peut effectivement prendre en apprentissage quelques autres enfants que son propre fils. Cela dit, souvent, quand même, les métiers se transmettent de père en fils.
Et c'est une société qui est régie par une institution qui est celle du mariage. Est-ce que le code Hammurabi vient régir cette institution, Dominique Charpin ?
Alors, il y a un certain nombre d'aspects qui sont fixés dans le code à cet égard, ce qui concerne par exemple le versement de la dot dans certains cas. Mais là encore, ça n'est pas une image générale qui nous est donnée. Ce que Hammurabi doit régler, c'est un certain nombre de cas particuliers, je dirais, qui posent problème par rapport à des coutumes habituelles qui se font sans qu'on ait besoin que l'État, ou le souverain plus exactement, ait besoin d'intervenir.
Quel problème, par exemple ?
Des problèmes concernant ce que j'expliquais tout à l'heure, le statut d'une fille qui ne sera pas donnée en mariage à un homme, mais qui sera donnée en mariage à un dieu, puisque c'est comme ça que ces femmes que nous appelons religieuses étaient vues à l'époque, et donc il va y avoir comme question de savoir qu'est-ce qu'on lui donne comme dot pour qu'elle entre au couvent. C'est une pratique qui existait dans chez les religieuses d'Ancien Régime en France encore, hein. Et elles n'ont pas droit à une part d'héritage, mais elles ont droit à cette dot, et la question est de savoir, puisqu'elles n'ont pas le droit d'avoir d'enfants, à leur mort, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà le genre de paragraphes qui sont très détaillés dans le code, qui correspondent à une situation assez limitée.
Allez, on va voir un peu plus en détail comment s'organise la vie économique à Babylone. On en parle dans un instant.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Selfish need.
Vous écoutez Ancient Water de Future Islands sur France Culture dans Entendez-vous l'écho et nous continuons à sillonner la Mésopotamie en compagnie de Véronique Grandpierre et de Dominique Charpin. Alors venons-en à l'économie babylonienne proprement dite. Faut-il considérer qu'il s'agit d'une économie de palais ? Écoutons d'abord l'historien et anthropologue Jean-Pierre Vernon.
Dans les sociétés traditionnelles où un groupe humain implique qu'il y a une hiérarchie sociale, une stratification, et qu'au sommet de cette stratification, il y a un personnage qu'on appelle le roi, le souverain, et que lui est complètement différent du reste. Il représente en quelque sorte le point d'union entre le divin et d'autre part la société humaine. Il joue ce rôle d'intermédiaire, et quelquefois même il est une divinité en quelque sorte incarnée. Et par conséquent, il y a une hiérarchie et il y a un pouvoir de domination indiscutable qui s'impose et qui s'impose par le prestige quasi sacré du souverain.
Alors voilà, si l'on en croit Jean-Pierre Vernon, le souverain mésopotamien domine la vie économique et sociale. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique Charpin ?
C'est vrai à beaucoup d'égards. Il a des moyens très importants, notamment le contrôle des réseaux, des canaux d'irrigation qui sont essentiels pour la vie agricole dans cette partie méridionale de l'Irak où il ne pleut pas suffisamment pour pouvoir cultiver sans l'apport de l'eau d'irrigation. Et en même temps, il est aussi dépendant d'entrepreneurs qu'on peut qualifier d'entrepreneurs privés, par exemple en ce qui concerne le commerce à longue distance, où là, il semble bien que le palais est plus client que entrepreneur. Donc il y a les deux facettes, et c'est ça qui est intéressant, bien sûr, d'explorer plus en détail.
On a longtemps considéré qu'il s'agissait exclusivement, Véronique Grandpierre, d'un système économique qui s'articulait sur le palais et le temple.
On a longtemps considéré, on a toujours eu quand même des tablettes de particuliers, donc on savait que le commerce de particuliers existait. Maintenant, on sait aussi, et c'est une particularité là aussi de la recherche en histoire de l'Orient ancien, qu'on ne sait pas tout. Il y a plein de tablettes qui resurgissent au fur et à mesure, donc on mesure l'étendue de ce qu'on ne sait pas, on mesure aussi l'étendue de ce qu'on sait, qui est vraiment infime.
Et on a beaucoup plus de traces écrites du côté du pouvoir, par exemple, on a du côté de la vie quotidienne.
Et voilà, les petits comptes de la vie de tous les jours, les vôtres, les miens, en règle générale, vous les avez peut-être, mais après, vous n'allez pas les archiver pendant des années. Et là, c'est pareil.
D'où cette vision qu'on a pu avoir d'une économie exclusivement palatiale, Dominique Charpin. C'est ce qu'il explique, selon vous ?
Oui, ce déséquilibre de la documentation, il est très clair. Par exemple, on a cru pendant longtemps que le commerce de la laine était quelque chose dont le palais avait le monopole, parce que la documentation était avant tout une documentation palatiale. Et puis, au fur et à mesure que les sources ont été publiées, on s'est rendu compte que ça n'était pas vrai du tout, et qu'il y avait aussi un commerce privé de la laine qui n'avait pas du tout cette figure de monopole qu'on s'était imaginé. Voilà un exemple concret où j'ai vu ça pendant le temps de ma carrière. Hein. Quand j'ai commencé comme étudiant, le dogme, c'était le monopole du palais sur le commerce de la laine. Et puis, j'ai fait partie de ceux qui ont remis ça en cause. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'en effet, ça n'était pas le cas.
Alors peut-être que ce n'est d'autant moins le cas que pour certains chercheurs, l'époque paléo-babylonienne a été marquée par l'émergence de la propriété privée. Véronique Grandpierre, on entend aussi cette vision des choses.
Là encore, l'émergence de la propriété privée, est-ce qu'elle n'existait pas avant ? Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément les tablettes. Donc, parce qu'on n'a pas les tablettes, on dit cela n'existait pas. Mais quand on n'a pas les tablettes, nous, on dit, eh bien, on ne sait pas. Peut-être
que
cela existe et peut-être cela n'existe pas.
Qu'est-ce qui nous dit qu'elle serait apparue au moment, justement, de l'époque paléo-babylonienne, cette propriété privée ?
Et pourquoi elle ne serait pas apparue avant ?
Ah mais c'est toute la question, Dominique Charpin.
Alors, je peux vous donner un scoop, si je puis dire, précisément à propos de la ville d'Ur que vous avez évoquée tout à l'heure, de cette période de la troisième dynastie d'Ur, donc le dernier siècle du troisième millénaire, qui est juste avant cette période qu'on appelle paléo-babylonienne et qui est dominée par la figure d'Amourabi. Et pendant très longtemps, on considérait que cette période, alors là, pour le coup, elle était marquée par une économie étatisée, avec une planification réunification quasi soviétique. Et puis on se rend compte là aussi que cette vision, elle vient du fait que l'essentiel des archives qu'on avait retrouvées jusqu'à présent documentait ces centres d'État qui existaient, mais il y a autre chose. Et au mois d'avril, j'étais sur place puisque je participais aux fouilles d'Our qui ont repris depuis 2015, et on a trouvé une tablette précisément de l'époque du roi Choulgui, du 21e siècle, et où il était question d'un échange de deux maisons privées, l'une qui faisait à peu près 340 mètres carrés, l'autre qui en faisait 250, entre deux personnes, et ça se passe dans la ville d'Our, et on voit que on a affaire à des propriétés privées avec un système d'échange entre deux personnes, exactement comme ce qui est connu par beaucoup plus de documents par la suite.
Donc avec Hammurabi, la nouveauté, c'est peut-être moins la propriété privée que le droit de propriété, justement.
C'est surtout le fait que, en effet, notre documentation est quand même si elle est biaisée, doit refléter malgré tout, dans une certaine proportion, la réalité. Et donc, en effet, la place de la propriété privée a sans doute été plus importante, mais c'est pas, on est dans la gamme de gris et non pas dans le noir et blanc comme on l'a cru pendant trop souvent.
Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, Véronique Grandpierre, c'est que l'agriculture était au centre de la vie économique babylonienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette vie agricole s'organisait?
Alors, l'agriculture est au centre de la vie pour une bonne raison, c'est que ce que l'on mange est issu de l'agriculture et c'est l'une des priorités. C'est la raison aussi pour laquelle il faut maîtriser, être contrôlé, à mon sens, deux choses. La première chose, et pour un roi c'est fondamental, c'est maîtriser son aval, autrement dit l'accès à l'eau. Si vous fermez les vannes au-dessus du royaume, le royaume ne peut plus irriguer. Et deuxième chose qu'il faut maîtriser, c'est l'accès à l'hydrocarbure, c'est-à-dire le naft, autrement dit le bitume, pour imperméabiliser les canaux. Parce que et imperméabiliser les bateaux qui vont circuler sur les canaux. Parce que si vous transportez la récolte dans un bateau qui coule, évidemment, ça risque pas.
Parce que c'est une récolte qui s'exporte beaucoup. Il y a beaucoup d'échanges de produits agricoles.
Il y a des échanges de produits agricoles. Il y a aussi le fait que pour faire de l'agriculture, il faut que ce soit de l'agriculture irriguée. On n'est pas dans un territoire où l'agriculture pousse d'elle-même. On n'est pas dans le croissant fertile, on est dans une partie quand même. Quand on voit l'Irak actuel, on comprend tout de suite que si on n'irrigue pas, on ne risque pas d'avoir beaucoup de récoltes. Le problème aussi, c'est qu'on a une crue des deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, cette crue du Tigre et de l'Euphrate arrive souvent après la récolte. Il vaut mieux qu'elle arrive après la récolte parce qu'autrement elle détruirait tout sur son passage. Donc on se sert de l'eau des fleuves pour irriguer, on se sert de l'eau de la crue pour transporter la récolte.
Et du coup il y a un savoir qui va devoir se développer pour pouvoir maîtriser l'agriculture, Dominique Charpin ?
Tout à fait, et on a des textes en sumérien dans lesquels on nous donne des indications très très précises, pas toujours faciles à comprendre de nos jours, mais qui montrent bien en effet les différentes techniques de sillon, puisque on part du fleuve et puis on va vers des canaux de plus en plus petits, et il y a des techniques très particulières pour faire en sorte que le maximum de surface puisse être irrigué. Alors on avait aussi un problème à l'époque, c'était le fait que comme l'ensoleillement est très très fort dans ces saisons-là, eh bien vous mettez de l'eau pour l'irrigation et le soleil va pomper l'humidité et fera remonter des sels minéraux à la surface. Et donc, on a le problème de la salinisation qui a été un grand problème pour les hommes de cette époque parce que lorsque vous cultivez de façon trop intense, eh bien, petit à petit, le sol devient trop salin et vos rendements diminuent et il faut abandonner la région où vous êtes pour aller vous installer ailleurs.
Et alors, à qui appartiennent les terres? Il y en a certaines elles appartiennent tout au palais. Certaines sont louées par le biais de ce qu'on appelle les champs alimentaires, Dominique Charpin.
Alors, le palais dispose de domaines très importants. Une partie fonctionne comme ce qu'on appellerait la réserve en termes traditionnels. Donc ce sont les forces du palais qui vont les cultiver. Et une partie, en effet, est distribuée à tous les gens qui travaillent pour le compte du palais, en particulier les soldats. Et ce sont ces champs alimentaires qui ont l'avantage que on attribue à une personne un champ et puis après ça, elle le fait cultiver comme elle veut, au lieu de lui devoir une ration qui implique un système d'organisation beaucoup plus lourd.
Mmh. Et donc on attribue un champ en échange de services, c'est cela ?
Voilà, et donc le service militaire étant évidemment le principal, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a des services de marchands, par exemple. Les marchands peuvent être rétribués par le palais de cette manière-là. Et puis vous avez aussi la propriété privée qui existe pour les terres agricoles comme elles existent pour l'habitat, par exemple. On a aussi des jardins qui sont dans la propriété des individus. Et ça, on le voit en particulier grâce au texte de partage d'héritage. Donc, les fils de l'homme décédé se partagent les différentes surfaces en fonction des catégories de biens dont il s'agit.
Et alors, il y a aussi l'élevage, dont il faut dire un mot. La gestion des troupeaux de bovins et ovins appartenant au palais était elle aussi confiée à des entrepreneurs, entre guillemets, les historiens ne sont pas d'accord aujourd'hui sur le degré d'indépendance de ces entrepreneurs vis-à-vis du palais, Véronique Grandpierre. C'est toujours cette question de la place d'un domaine économique privé par rapport à l'État.
Vous avez pour les plus grands troupeaux, bien évidemment, ça suppose une grande structure, et pour les petits troupeaux, vous aurez des structures plus particulière. La difficulté, en fait, là où nous avons des ressources, enfin des textes, c'est surtout ce qu'il arrive quand il y a un problème dans le troupeau. Quand tout va bien, en règle générale, on l'a parfois au niveau des gouverneurs, mais on a plutôt, nous, des tablettes quand il y a eu un problème sur le troupeau, c'est-à-dire quand il y a une partie du troupeau qui fait défaut pour X ou X raisons.
Mmh. Et la question, c'est effectivement jusqu'à quel point ces entrepreneurs sont indépendants ou sont des salariés de l'État. On sait que, par exemple, ils pouvaient cultiver les terres du palais, mais aussi celles des temples ou de riches particuliers, Dominique Charpin.
Absolument. Et là aussi, ça a fait partie des progrès de ces dernières décennies que de se rendre compte que les grands cultivateurs, qu'il s'agisse des terres céréalières, mais aussi des palmeraies, qui jouaient un rôle économique très important, eh bien, c'était en effet de véritables entrepreneurs qui servaient d'intermédiaires. Et ensuite, le surplus des terres qui étaient cultivées pour le compte du palais, eh bien, pouvait être commercialisé et l'État recevait ensuite une redevance correspondant à la vente de ces surplus.
Donc, plus que d'une économie de palais, il faudrait parler d'une économie domaniale ?
Absolument, parce que les temples étaient des grands propriétaires fonciers eux aussi, et les individus riches avaient également des domaines très importants. Donc, que le propriétaire ait été un aristocrate, une divinité ou le roi, ça ne change pas fondamentalement la façon dont l'économie est organisée.
En revanche, on sait, je crois, assez peu de choses de l'artisanat babylonien, Véronique Grandpierre. Qu'en était-il de l'artisanat, des artisans ? Est-ce qu'on a des traces écrites importantes qui nous permettent de savoir un petit peu quelle forme ils prenaient ?
Alors, on a des représentations d'artisans, on a des tablettes qui mentionnent un certain nombre d'artisans. En revanche, effectivement, on a moins de choses en ce qui concerne les artisans qu'en ce qui concerne tout ce qui est commerce ou propriété terrienne. Pour une bonne raison, c'est que encore de nos jours, si vous faites appel à un artisan, vous allez peut-être dresser un devis, vous allez faire un constat peut-être, et encore, une fois que les travaux sont faits, vous ne le gardez pas. Et donc, vous n'avez pas de compte d'année sur année que vous allez archiver. Mmh. Donc, c'est pas parce que nous n'avons pas, nous, d'archives, nous n'avons pas retrouvé de traces que ça n'existait pas, bien évidemment.
Mais c'est qu'on en sait peu de choses, Dominique Charpin.
Et en même temps, justement, c'est là où il y a la surreprésentation de la documentation palatiale. Dans le palais de Marie, vous avez des séries complètes concernant certains types de travaux d'artisanat, parce que il fallait fournir aux artisans la matière première. Et là, vous imaginez bien que on en tenait un compte, je dirais, d'autant plus précis que la matière était précieuse, l'or étant la matière première pour laquelle on a le plus de documents, parce que on était là à peser, repeser. Et puis l'or était purifié, donc il y avait des pertes, et on comptait les intendants du roi contestaient l'importance des pertes, et donc il fallait faire appel à des experts qui puissent vérifier. Et on a non seulement des documents comptables là-dessus, mais on a aussi des lettres, et les lettres sont très précieuses à cet égard parce que elles nous permettent de voir concrètement comment les opérations s'enchaînaient et la façon dont le souverain s'intéressait de près y compris à des détails de ce genre.
Et alors, comment s'organisaient les marchands babyloniens? Est-ce qu'ils s'associaient de façon ponctuelle, contrairement aux marchands assyriens, par exemple, Dominique Charpin?
Alors, ça dépend du type de commerce précisément. Vous avez deux grands types de commerce à longue distance, le commerce terrestre et le commerce maritime. Avec le commerce terrestre, vous avez des aléas, c'est vrai, il peut y avoir des brigands qui attaquent une caravane, mais globalement, le risque est moins important. Et donc, les Assyriens qui commerçaient donc entre le nord de l'Irak actuel et le cœur de la Turquie actuelle avaient réussi à mettre sur pied des firmes qui étaient relativement stables. Et on a retrouvé d'ailleurs les statuts de certaines de ces firmes avec les noms des investisseurs, l'apport de chacun, etc. Dans le sud de la Mésopotamie, une partie du commerce à longue distance, celui qui est pour l'instant le mieux connu, c'est du commerce maritime, du côté du Golfe. Et là, alors, comme toujours, le commerce maritime, les aléas sont beaucoup plus importants. Et du coup, on fait des mises de fonds au cas par cas.
Pour des voyages ponctuels.
Pour des voyages ponctuels. Et donc, il n'y a pas ce même réseau de correspondants aussi serré que ce qu'on a dans le cas du commerce terrestre.
On parlait de cette controverse sur la place de l'État dans l'organisation de l'économie. Ce qui est intéressant, c'est qu'un économiste comme Karl Polanyi a défendu l'existence d'un commerce sans marché au temps d'Amourabi, mais finalement c'est une thèse qui a été par la suite discréditée, comme on l'a dit, Véronique Grandpierre.
Le commerce est quand même de toute façon existe, et le marché que l'on crée, enfin, comment voulez-vous avoir de commerce sans marché?
Il faut un commerce essentiellement régulé par l'État.
Régulé par l'État, mais non, parce qu'il y a toujours des particuliers qui vont faire du commerce. Vous allez avoir toujours des chemins détournés pour faire du commerce, y compris de la fraude. D'ailleurs, sur les chemins bien structurés du commerce, on a d'ailleurs des archives nous montrant que la fraude existait. Comment frauder pour faire entrer des métaux sans les déclarer dans les villes? Les chemins ne sont pas forcément sûrs, mais les chemins aussi peuvent être empruntés pour bien des choses.
La thèse de Polanyi, en tout cas, est dépassée aujourd'hui à Dominique Charpin.
Oui, je crois qu'il ne faut pas prendre des gants pour le dire, ça correspondait. C'est toujours le problème. Vous avez des théoriciens qui dont les idées reposent sur des synthèses qui sont elles-mêmes déjà un peu datées. Donc, il a écrit ses ouvrages dans les années 50, hein, donc ça fait quand même pas mal de décennies. Et depuis, on s'est rendu compte qu'en effet, la vision qu'il avait de l'économie mésopotamienne ne correspond pas du tout à la réalité. Et un des points qu'il faut souligner, je crois, c'est la question de la circulation de l'argent.
J'allais vous en parler. Alors, une économie prémonétaire. Alors pourquoi cela?
Alors justement, il faut s'entendre sur le sens de prémonétaire. C'est prémonétaire dans le sens où il n'y a pas de monnaie frappée sous forme de pièces comme on en a à partir de l'époque perse au premier millénaire. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y ait pas de circulation d'une certaine forme de monnaie. Simplement, à l'époque, l'argent était généralement pesé à chacune des transactions. Et là aussi, on s'est rendu compte que on était allé plus loin. C'est-à-dire que vous avez un temple qui fait office de sorte de bureau des poids et mesures, et les membres de ce temple circulaient avec des jeux de poids certifiés, et ils pesaient l'argent qui était ensuite mis dans des petits sacs en cuir qui étaient scellés, ils apposaient leur sceau dessus et ils indiquaient la quantité. Et donc, quand il est question dans les sources d'argent scellé, c'est pas l'argent qui est scellé, c'est l'argent qui est dans des sacs scellés, et ça, c'est de la monnaie qui a un contrôle officiel. Donc c'est la déesse Kittoum, qui est la fille du dieu Shamash, qui est de la justice, qui dont c'est le domaine de compétence, et on voit par là même que il y a une circulation d'argent certifié, donc c'est
prémonitaire. Ce qui explique cette vision aussi d'une économie dominée par le palais à cause de cette nécessaire certification de l'argent, puisque vous me disiez il y a un lien à faire entre la thèse de Polanyi et cette circulation monétaire.
Et on voit dans certains cas que certaines taxes ne peuvent être payées que avec de l'argent certifié.
Véronique Grandpierre.
Non, je pense que l'important, c'est que c'est le poids. On paye en poids. On ne paye pas avec une monnaie sur laquelle il y aurait une valeur théorique. Là, c'est de l'argent, c'est le poids de l'argent. Sur une monnaie, vous mettez une valeur, la valeur que vous souhaitez. Il y a quand même une grande différence entre les deux.
Et ce qui permet à Hammurabi de fixer des prix et des salaires dans son code, Dominique Charpin ?
Tout à fait. Et là, le problème que nous avons, bien sûr, c'est de comparer les chiffres qui sont donnés dans le code d'Hammurabi avec la pratique. Et on s'aperçoit que, dans certains cas... les textes de la pratique nous donnent des niveaux de salaire qui sont plus élevés que ce qui est dans le code, comme si le code nous indiquait une sorte de
salaire minimum.
Voilà.
Et alors, c'était un code, on l'a dit, qui était public. Tout le monde y avait accès. Et alors, est-ce que le pouvoir du roi pouvait se manifester autrement? Je pense en particulier par les édits de grâce qui soulageaient le peuple lorsque la situation économique était mauvaise, Dominique Charpin?
Tout à fait. Et le cas des familles qui vendent certains de leurs membres comme esclaves est un bon exemple. Lorsque la situation économique devenait trop catastrophique, le roi pouvait se rendre compte qu'il fallait intervenir et à ce moment-là, il y avait des remises. Donc les gens qui n'avaient pas réussi à rembourser leurs créanciers, non pas pour des prêts à caractère économique, mais pour des prêts de nécessité, pour survivre simplement, eh bien ces prêts-là pouvaient être annulés par le roi et les familles qui avaient dû vendre certains de leurs membres récupéraient femmes ou enfants.
Allez, écoutons encore une fois les paroles du souverain Hammurabi.
Je suis Hammurabi. Je suis Hammurabi, le roi parfait. Pour les populations que le dieu Enlil m'a données et dont Marduk m'a fait le berger, je n'ai pas été négligent. Je n'ai pas laissé tomber le bras. J'ai recherché pour eux des lieux de paix. J'ai résolu des difficultés ardues. J'ai fait jaillir sur eux la lumière. Pour que le fort n'opprime pas le faible, pour rendre justice à l'orphelin et à la veuve, j'ai inscrit mes précieuses sentences sur ma stèle et je l'ai installée devant l'image qui me représente en roi de justice dans la ville de Babylone, de façon à rendre les jugements du pays, à trancher les verdicts du pays et à redresser la situation de celui à qui on a fait du tort. Je suis le roi prééminent parmi les rois. Mes paroles sont choisies, ma compétence n'a pas d'égal. Sur l'ordre de Shamash, le grand juge du ciel et de la terre, puisse ma justice prévaloir dans le pays. Sur l'ordre de Marduk, mon seigneur, puisse mon image graver ne pas rencontrer d'être qui voudrait l'effacer. Qu'à l'avenir, à tout jamais, tout roi qui existera dans le pays respecte les paroles de justice que j'ai inscrites sur ma stèle. Qu'il ne modifie pas les jugements du pays que j'ai rendus, ni les verdicts du pays que j'ai décidé.
Voilà, cette fois c'est un extrait de l'épilogue du code d'Hammurabi que l'on vient d'entendre. Alors quelle a été la postérité de ce code? On entend Hammurabi espérer que ces paroles de justice survivront à tout jamais, Véronique Grandpierre.
Bien, on peut noter que ces paroles, c'est surtout la mise en avant qu'il est le protecteur en fait de ces sujets, et notamment les sujets les plus faibles, de la veuve et de l'orphelin. Ça, c'est un thème que l'on retrouve ailleurs. Peut-être aussi cette idée de loi du talion que l'on retrouve dans d'autres codes de loi, bien postérieurs aussi.
Et le souverain sera en tout cas considéré comme un modèle pour ses successeurs.
Ouais, un roi de justice.
Dominique Charpin, ce qu'il faut peut-être dire pour conclure, vous le disiez au début de cette émission, c'est que Babylone va connaître une période de déclin après le règne d'Hammurabi, puis un second apogée avec Nabucodonosor II au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est la deuxième grande période d'apogée de Babylone.
Et c'est la période pour laquelle on a, d'un point de vue archéologique, des documents et des monuments très importants qui sont encore visibles de nos jours sur le site, grâce aux fouilles qui ont eu lieu depuis la fin du 19e siècle. Et là, pour le coup, on peut se représenter la ville du premier millénaire, alors que la ville de l'époque d'Hammurabi, malheureusement, il nous faut faire un grand effort d'imagination pour se la représenter. Mais les textes sont quand même très parlants. J'avoue que d'écouter l'épilogue du code, comme nous venons de le faire, nous permet quand même d'avoir déjà une belle image. C'est celle que Hammurabi a voulu laisser de lui.
C'est ça, c'est un héritage qui est resté particulièrement important pour les souverains qui vont lui succéder.
Non seulement pour les souverains en Mésopotamie, mais cette image du berger que nous avons entendue, elle est encore valable dans le Proche-Orient à l'époque du Christ. Le Christ en est servi lorsqu'il dit « je suis le bon pasteur ». Pas du tout une image bucolique, c'est l'affirmation d'une royauté et de la volonté de faire régner la justice sur la terre.
Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'Écho avec Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Journal un peu spécial pour cette semaine de Noël, puisque vous nous proposez quatre tendances remarquables de l'économie cette année. À commencer par le débat sur les taux négatifs fixés par les banques centrales, baguette magique ou baguette maudite.
Eh bien vous vous souvenez Tiffaine et chers auditeurs qu'au début du mois, on présentait ici même comme une grande nouvelle le fait que deux banques centrales, la Fed et la BCE, venaient de ne pas décider de nouvelles baisses de leurs taux directeurs. Et c'était un événement. Après 6 mois de baisse du côté américain et plus de 2 ans de diminution pour la Banque Centrale Européenne de ces fameux taux, taux qu'a atteint en Europe moins 0,5% en septembre. Nous voilà donc entrés dans le domaine hasardeux des taux négatifs, territoire inexploré où le futur est plus certain que le présent, écrit Nicolas Bouzou dans Les Échos le 12 novembre.
Mystère, mystère, justement, il faudrait peut-être expliquer à quoi correspondent ces fameux taux qui deviennent négatifs.
Oui, ce sont les taux fixés par les banques centrales pour rémunérer les banques ou institutions qui déposent de l'argent chez elles. Ces taux influent directement sur les coûts de la possession de l'argent pour les banques, donc sur leurs marges, donc sur les taux de crédit au commun des mortels, entreprises et ménages. Alors pourquoi les banques centrales produisent-elles des taux négatifs, c'est-à-dire de l'incitation à ne pas épargner, c'est-à-dire finalement à prêter? La réponse est en partie dans la conjoncture, la persistance d'une croissance faible, 1,2% cette année, 1,1% l'année prochaine en Europe, ou en tout cas estimée pas assez forte. Aux États-Unis et en Union Européenne, ce sont les mêmes arguments. La Fed dit vouloir stimuler l'expansion. Le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, lui parlait d'un puissant instrument pour renforcer la reprise. Du côté des investisseurs, il devient plus certain pour une banque ou un établissement de perdre une petite somme en la plaçant à long terme que de risquer d'en perdre une grosse en la plaçant sur un marché actuellement trop incertain. C'est une sorte de placement intermédiaire, disons, entre le spéculatif et le métal. Le problème étant que les autorités monétaires veulent stimuler l'investissement, mais que cette mesure monétaire est aussi un message d'incertitude sur l'avenir et plus encore sur le présent. En gros, parier sur maintenant car l'avenir est plus incertain.
Cette politique, largement incarnée ces dernières années par Mario Draghi, a ses détracteurs et ses partisans, Xavier.
Oui, alors là, plus de dubitatifs que de fervents turiféraires, à vrai dire, du moins dans la presse française. Politique périlleuse, dit Patrick Artus de Natixis. Impasse des banques centrales, dit Mohamed El Erian chez Allianz. Beaucoup soulèvent en fait le problème de la perte de marge pour les banques. Plus largement, beaucoup dénoncent le risque que font courir les taux négatifs et l'argent gratuit, ce qu'ils appellent comme tel, au système. Puisque les taux négatifs servent à fabriquer de l'inflation en quelque sorte artificielle, en se substituant à un défaut d'investissement, raison pour laquelle Pascal Lamy de l'OMC les jugeait absurdes en système capitaliste.
Et l'affaire est devenue politique et a fait trembler la Banque Centrale Européenne et les institutions financières.
Oui, alors là, il y a eu des premières critiques de gouverneurs de banques centrales autrichiennes et françaises il y a un an, mais l'affaire a pris un tour de véritable mutinerie au sein du Conseil des gouverneurs lors de l'avant-dernière réunion le 12 septembre, avec une nouvelle baisse des taux décidée par Mario Draghi et l'opposition ouverte de 3 gouverneurs, la démission même d'une des membres allemandes du Conseil, Sabine Lautenschläger. Et pourtant, dans l'Écho belge en février, l'économiste et sociologue André Peters estimait que la politique de la BCE était quand même un succès, en rappelant qu'aujourd'hui il est bon ton de la critiquer et qu'elle avait pourtant permis d'éviter, je le cite, une récession économique sans précédent. La suite, prochaine décision au Conseil des gouverneurs dans un mois exactement, le 23 janvier 2020.
Merci Xavier et à demain. On se quitte avec les Vampire Weekend, Yahey, merci beaucoup Véronique Grandpierre et Dominique Charpin de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans cette exploration de la cité babylonienne au temps d'Amourabi. Demain, on interrogera le rôle de l'État dans l'organisation de la vie économique de l'Égypte antique. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.
dans la vie.